RCF.
Chers amis auditeurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre nouvelle émission À vos passions. Dans cette émission, nous irons à la rencontre de ces passionnés qui ont décidé de vivre leur passion, coûte que coûte. Et parfois, ça veut dire tout abandonner. On le verra avec Amandine Mouret, une passionnée de botanique. Bonjour.
Bonjour Béatrice.
Amandine, les auditeurs de RCF vous connaissent déjà. Vous produisez une émission sur les plantes. Commençons par le commencement, parce qu'à vous entendre avec votre bel accent, il me semble que vous n'êtes pas née dans le Nord.
Tout à fait, Béatrice. Bonjour, je suis née à Clermont-Ferrand, mais j'ai vécu toute ma jeunesse, jusqu'à mes 18-19 ans, dans le Tarn, pas loin d'Albi. Donc je suis un produit du Sud, disons.
Avant que la passion des herbes ne vous prenne, par quel chemin vous êtes entrée dans la vie professionnelle ?
Alors, un parcours de vie classique, j'ai obtenu un bac en économie et sociale, puis après, master en management de l'innovation, master en économie et gestion.
Stop.
Et puis, j'ai commencé à travailler dans des cabinets d'audit et de finance.
Oui, vous avez conseillé, je crois, des chefs d'entreprise dans quel domaine ?
Dans l'innovation, notamment dans la levée de fonds, et plus particulièrement les entrepreneurs de la filière du digital qui recherchaient des fonds auprès des fonds d'investissement.
Bon, j'espère que vous les avez rendus heureux, ils ont bien trouvé.
Ils ont, oui, parfois trouvé de l'argent pour se développer leur activité. Ce fut 10 années très nourrissantes pour moi, qui étaient totalement en relation avec mon parcours scolaire classique.
Bon, alors, quand est-ce que ça a commencé à changer ? Et est-ce que vous avez toujours vécu à La Rochelle ?
Je vis à La Rochelle depuis 8 ans maintenant. Je suis passionnée de plantes. Cette passion a émergé en moi il y a à peu près 2-3 ans. Petite, j'étais en nature, souvent avec mes parents. Je faisais beaucoup de kayak, j'allais au cèpe, je cueillais aussi beaucoup de fleurs. Mais avec le temps, ceci s'est envolé.
Dites-nous avant, qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez eu l'envie incontournable de vivre cette passion qui existait déjà, la passion de la nature ?
Il y a 2 ans, j'ai arrêté de travailler, je suis allée marcher sur le chemin de Compostelle.
Quelle bonne idée.
Ouais, très très bonne idée. Et après un mois de marche, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais en plein milieu de la nature et je me suis dit, là est la clé de mon devenir. Je me sentais pas du tout seule. Une personne m'avait fait la remarque, ah, vous êtes seule, vous marchez toute seule. Et je lui avais répondu, ben non, il y a la nature autour de moi.
Oui, mais ça, c'est souvent sur le chemin de Compostelle. Les gens y vont souvent avec une question, c'était sans doute votre cas, et ils sont très accompagnés.
Tout à fait. La nature était autour de moi. Et avant de partir, à plusieurs reprises, je m'étais fait la réflexion, ah, il faudrait que je fasse une sortie avec Anne Richard à Fleur de Marais. Et la première chose que j'ai faite en rentrant de Compostelle, c'est contacter cette dame que je ne connaissais pas pour faire une sortie botanique. Et là, après 1h30 avec Anne, je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit « Bonjour Anne », je lui avais déjà dit bonjour d'ailleurs, « Je souhaiterais faire ce que vous faites ». Elle m'a regardée avec les yeux et elle a dit « Bon, ben pourquoi pas, tu t'y connais ?»« Non, mais je vais apprendre ». Et j'ai passé 1 an à ses côtés, j'ai fait toutes les sorties plantes. Par ailleurs, j'ai fait une école de plantes médicinales à Montpellier, j'ai fait du woofing. J'ai rencontré aussi des personnes comme Anne Richard à travers la France. Je vais intégrer d'ailleurs dès le mois de septembre de cette année un DU en ethnobotanique. J'ai continué à me former, je continuerai à me former. Et là, la passion des plantes qui avait émergé lors du chemin de Compostelle n'a fait que grandir.
Alors, est-ce que finalement, on peut dire que ça a été un processus lent ou bien qu'est-ce qui vous a fait cheminer vers cette autre vie ? Est-ce qu'un jour vous êtes dit « je quitte le monde des affaires, je veux faire de la botanique et rien d'autre » ou bien est-ce que ça s'est fait lentement ?
Ça s'est quand même fait lentement, car quand j'étais en poste, je suis allée vers d'autres passions. J'aimais beaucoup le chocolat, j'aime toujours le chocolat, donc j'ai commencé à travailler de chocolat, j'ai fait aussi un peu de pâtisserie, j'ai fait de la déco. Et puis chaque fois, il manquait un petit quelque chose. Je trouvais que toutes les activités qui étaient nourrissantes pour moi n'étaient pas totalement en adéquation avec mes valeurs profondes, à savoir protection de la nature, consommer local, consommer bio et être aussi dans un bien-être quotidien. Et là, à travers les plantes comestibles et médicinales, je consomme local, je consomme bio, parce que je fais très attention à ne pas cueillir sur des zones qui sont glyphosatées, comme je dis, très bien. Je suis dans la marche, et la marche, ça procure énormément de bonheur et de bien-être. Et surtout, je peux transmettre aux gens mon savoir. Et dans mon activité, je pense que c'est ce qui me nourrit le plus. Car je peux voir à travers les yeux des gens qui sont ravis de se reconnecter à la nature, nature qui, pour la plupart, ne côtoie plus du tout.
Alors, à propos de transmission, je crois que les livres vous ont aussi beaucoup apporté, lesquels? Et en tant que formateur, vous m'avez parlé de certaines personnes, lesquelles?
Alors, au niveau des livres, le premier livre qui a été un déclencheur chez moi pour aller vers cet autrement, c'est un livre d'Alexis Botaya. Alexis Botaya a écrit « Créer le job de vos rêves et la vie qui va avec ». Et le premier chapitre de ce livre était « Écrivez votre éloge funèbre comme vous voudriez qu'elle soit lue le jour de votre mort ».
Beau programme.
Beau programme. Et là, j'en étais qu'au titre, j'ai refermé le livre et je me suis dit « Eh bien là, si on doit écrire une éloge funèbre avec le métier que j'ai actuellement, l'état d'esprit que j'ai, parce que j'étais pas forcément au mieux dans mes baskets, je me suis dit, mais l'éloge funèbre, elle va être catastrophique. Et moi, je voyais une éloge funèbre du style « Amandine était passionnée, Amandine aimait la vie, tout le monde habillé en jaune poussin, genre de mon enterrement. » Et je me disais, mais ça va jamais se faire, il faut que je change. Et là, le petit vélo s'est mis en marche, et c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler, que je suis allée sur Compostelle, et quand j'ai rencontré André Richard, je me suis dit, ah, là c'est bon, l'éloge funèbre, elle va changer. Et j'ai lu notamment tous les ouvrages d'Anne Richard, elle a écrit 5 livres, co-écrit une vingtaine de livres, tous autour des plantes comestibles, certains autour des plantes médicinales, avec beaucoup de recettes, avec l'histoire de ces plantes, et ces livres ont commencé à nourrir mon intérêt pour les plantes sauvages comestibles et médicinales. Après, d'autres auteurs sur cette thématique ont été éveilleurs de sens pour ma part, François Couplan, notamment. Et je peux aussi citer Moon, qui a écrit certains livres qui sont très intéressants.
Très bien. Et puis aussi, toutes les semaines, ces personnes qui vous suivent vous apportent aussi, j'imagine.
Tout à fait. Je suis surprise. Alors, surprise des jeunes d'une dizaine d'années qui, quand on leur dit une chose sur une plante, ils retiennent. Ils vont même nous reprendre parfois parce qu'on a dit quelque chose au début, puis des fois à la fin on se mélange les pinceaux, on dit autre chose, ils font mais vous n'avez pas dit ça au début. Donc je suis surpris par, on va dire, l'attention qu'ont les enfants et leur capacité à retenir les choses. Une plante, ils la reconnaissent de suite et quand on leur dit quelque chose, c'est bon, c'est en mémoire. Et puis aussi, je suis impressionnée par les personnes qui sont plus âgées et qui ont connu ça à travers leurs grands-parents, leur grand-mère ou leur grand-père qui leur transmettait. Et puis, ils ont oublié avec le temps. Et en me rencontrant, en leur parlant de l'ortie, en leur parlant du frêne, en leur parlant de la guimauve ou de la rose trémière, ils sont là, ah, c'est vrai, mon grand-père me disait ça. Ah, ma grand-mère me disait ça. Et du coup, ils commencent à me dire, ah, mais moi, en recette, je me rappelle, ma grand-mère faisait ceci, puis en tisane, elle faisait cela. Et il y a un échange qui se met en place entre les personnes communiquent, échangent aussi, et puis après, il y a de belles histoires qui se mettent en place. Il y a, par exemple, avec certains élèves, maintenant, j'ai tissé des amitiés, on se revoit, on échange à travers les livres, en se posant des questions, et puis en cuisinant parfois, ou en faisant des produits cosmétiques autour des plantes.
Oui, ça, je suis bien d'accord. C'est un beau moyen, un beau pont transgénérationnel, cet amour de la nature, et de l'utilité de montrer à nos enfants, parce que c'est comme la musique, s'ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas apprécier. Continuons. Et parlons-en. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, et c'est tant mieux, veulent partager leur amour de la nature. Quelle est votre marque de fabrique? Qu'est-ce qui vous caractérise, vous, Amandine Mouret, dans votre approche de la nature?
J'ai posé une fois cette question à des amis qui étaient venus à un cours autour des plantes. Et elles m'ont dit, tu as une capacité à transmettre avec une pédagogie qu'on ne retrouve pas auprès d'autres personnes qui pourraient nous transmettre leur passion. Et j'ai tendance à impliquer réellement le groupe lors d'une heure ou de 2 heures en nature, leur poser des questions et faire que la personne qui est un peu timide revienne dans le groupe, goûte aussi parfois, parce que ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'il y a des personnes qui viennent à des cours autour des plantes comestibles et n'osent pas goûter. Parce qu'on a plein d'appréhensions et de peurs ancestrales qui font « Ouh là là, j'ai peur de tomber malade ». Et ce côté-là pédagogue que j'ai en moi fait que les personnes qui n'osent pas osent en fin d'atelier. Et ça, c'est très intéressant.
Oui, ça fait très plaisir. En même temps, c'est la récompense de goûter, mais il faut aussi faire attention à ne pas tout goûter n'importe quoi, parce qu'il ne faut pas oublier, ça peut aussi être dangereux.
Tout à fait, il y a quelques plantes toxiques, même parfois mortelles. Sur certaines plantes, on peut manger les feuilles, mais pas les baies. Sur d'autres, on peut consommer les racines, mais pas la plante. Donc, il faut toujours être prudent. Et j'ai tendance à dire aux personnes, si en une heure de temps avec moi, vous voyez 10 plantes, c'est déjà énorme. Essayez de retenir ces 10. Si parfois vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Toutefois, quand vous ne connaissez pas la plante, vous ne la cueillez pas pour la consommer. Vous pouvez peut-être l'accueillir pour regarder dans un herbier si elle est toxique ou non, mais s'il y a un doute, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai exemple d'une dame cette semaine qui m'a envoyé une photo en me disant « ces baies ont l'air très très bonnes, puis-je les consommer ?» C'était une morelle, c'était pas la morelle douce amère, mais la morelle noire. La morelle noire, on peut consommer les baies quand elles sont, les fruits quand ils sont très très mûrs, mais quand ils sont verts ou la plante entière est très toxique. Donc je lui ai bien noté en lui disant si elle pouvait aller vers une autre plante, ça serait mieux, parce que vu en tout cas le nombre de baies qu'a la morelle noire, on ne va pas s'attarder sur celle-ci.
Oui, c'est pour ça que c'est très très important quand on enseigne, quand on montre une plante, de montrer surtout avec quelle autre mauvaise plante toxique on risque de la confondre. Alors, est-ce qu'il y a justement, puisqu'on se trouve à La Rochelle, un plus de se trouver ici, dans notre belle ville de La Rochelle, pour votre activité d'herbaliste?
Alors, être à La Rochelle, c'est super, pour plusieurs raisons. Notamment du fait que les personnes viennent à La Rochelle, surtout pour faire du bateau, profiter de la mer. Et là, à travers les plantes comestibles et médicinales, elles redécouvrent leur terroir. Et là, souvent, pour elles, c'est une pleine découverte. Car à La Rochelle, on trouve des huîtres, on trouve un peu des moules si on redescend, mais on ne se dit jamais qu'on va pouvoir consommer les plantes qui sont du bord de mer. Et à La Rochelle, on trouve les plantes continentales, mais aussi, comme je disais, les plantes du bord de mer. Donc on a une flore qui est très variée, avec aussi des marais, si on remonte un peu plus dans le marais Poitevin, ou même déjà à Aytré ou à Villeneuve-les-Salines.
Des marais
Pas des marais,
parce qu'on va se tromper. Oui, donc il y a dans le marais des fleurs qui sont assez typiques, spécifiques de ces régions de marais, comme l'aubione, les oreilles de cochon, les fameuses oreilles de cochon, des choses délicieuses.
On peut trouver la salicorne aussi, qui est vraiment sur l'estran. On va surtout trouver à La Rochelle une plante pour moi qui est magique, que l'on consomme surtout en juin, juillet et début août, la criste marine. C'est une plante typique de chez nous, on en a partout. C'est une plante excellente pour avoir un tissu cellulaire en pleine forme, car elle contient beaucoup de vitamine C, anti-vieillisseur cellulaire, anti-cellulite. Et elle était utilisée avant par les marins, anti-scorbut. Quand les marins partaient en voyage sur les bateaux, elle est très goûteuse. On peut s'en servir comme aromate, mais aussi on peut en faire d'excellents pestos. Et là, pour ma part, je suis un peu la reine des pestos.
Donc, bon, vous allez nous donner la recette, s'il vous plaît. Oui, moi, je confirme, cette criste marine, elle a tout de beau, son nom. Elle se trouve facilement, on ne peut pas la confondre. Et on l'utilise. Vous nous dites un petit peu la recette de votre pesto?
Alors, le pesto, que maintenant aussi j'appelle quand même tartinade. La tartinade, on va dire, de criste marine. Vous prenez la criste marine, vous le mettez la criste marine dans un blender, vous mettez de l'huile d'olive, vous pouvez aussi mettre une autre huile plus douce que l'huile d'olive. Vous mettez des céréales type flocons d'avoine, flocons de petite épeautre pour créer une certaine densité à cette tartinade. Et si vous voulez avoir un petit goût comme le pesto qui est fait avec de parmesan, vous pouvez mettre là de l'emmental. Mais moi maintenant j'ai arrêté de mettre du fromage et je mets du lait d'amande. Donc si vous mettez huile d'olive, criste marine, des céréales et du lait d'amande, vous avez quelque chose de très goûtu et doux à la fois. Et avec une couleur d'un vert pétant qui surprend vraiment les papilles de vos convives. Oui. Et là, vous pouvez en mettre dans les pâtes, mais vous pouvez aussi en faire surtout des petites tartinades pour des petits morceaux de pain en apéro. Voilà, un apéritif et c'est très 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 bon.
Oui, c'est vrai, c'est très très bon. Vous surprendrez tout le monde et vous les régalerez. Je vous propose de mettre en musique notre propos. Amandine, que souhaitez-vous nous faire entendre ?
Je souhaiterais vous faire entendre une chanson qui me fait vraiment penser à ma maman, de France Gall.
Résiste.
Résiste. Pourquoi résiste ? Car changer de vie, c'est à la fois très passionnant, c'est très engageant, mais c'est pas tous les jours facile. Et en écoutant cette musique de France Gall, je pense toujours à ma maman et je suis là. Oui, Amandine, tu peux y arriver.
On écoute.
Si on t'organise une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste, résiste, suis ton
de RCF qui nous rejoignent dans notre émission À vos passions. Nous sommes aujourd'hui avec Amandine Mouret, herbaliste, qui vous propose à La Rochelle de découvrir les vertus des plantes. Alors, Amandine, comment ont réagi vos proches ? Est-ce qu'ils ont été positifs ? Est-ce qu'ils vous ont aidé ?
Tous les proches ont été très positifs. Mes parents notamment m'ont énormément soutenue avec beaucoup d'ouvrages littéraires, un soutien aussi un peu financier, mais surtout un soutien moral, surpris, mes moteurs.
On le sait, ce n'est pas facile de joindre les deux bouts quand on vit de sa passion. Quelle est votre recette ?
Ma recette, c'est avoir des petits boulots durant l'année et m'investir à fond dans le sentier, qui est mon activité, en proposant beaucoup d'ateliers, beaucoup de cours et des conférences aussi depuis peu.
Bon, on en parlera un petit peu après. Vivre sa passion, oui, c'est un bonheur, un privilège. Ça fait bouger beaucoup de choses aussi. Est-ce que ça vous a fait évoluer de façon différente ? En quoi et de façon importante votre vie a été modifiée ? En d'autres termes, que vous a permis de vivre votre passion des herbes ?
Ma passion des herbes m'a permis d'être plus autonome que ce que je ne l'étais. Je fais maintenant mes cosmétiques, mes baumes, mes huiles solarisées, mes vinaigres médicinaux. Je consomme à peu près 2 fois par semaine des salades sauvages. Je fais mes tartinades ou mes pestos, comme je vous ai dit, en début de séance. Et je suis de plus en plus bien à mes baskets parce que je suis régulièrement en nature, en connexion avec le vivant.
Une petite recette de cosmétique au passage.
Une petite recette de cosmétique très très simple. Vous cueillez des plantes fraîches, vous les mettez dans un bocal. Dans ce bocal, après, vous recouvrez vos plantes d'une huile. Vous pouvez prendre par exemple de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Et vous faites solariser cette huile au soleil pendant 21 jours. 21 jours de grand soleil. Les jours de pleine lune, si vous pouvez, vous enlevez votre pot et vous le mettez chez vous bien à l'abri et vous le ressortez 2 jours après la pleine lune. Votre huile va prendre les propriétés de la plante. Une fois les 21 jours passés, vous filtrez cette huile et vous pouvez vous masser le corps ou certaines parties du corps avec cette huile. Je prends par exemple l'huile de mélépertuis, qui est une huile excellente pour l'après-soleil. Vous allez avoir une huile qui va rougir avec les jours de solarisation. Au bout des 21 jours, vous allez avoir une huile resplendissante de soleil qui va vraiment enlever le feu après une journée passée au soleil.
Oui, j'ai fait ça avec le millepertuis. Très encourageant, très facile, c'est joli, ça sent bon, c'est économique et puis c'est satisfaisant de jouer à la magicienne. Eh bien, soyons pratiques, Amandine, pour les auditeurs qui meurent d'envie certainement de vous suivre sur nos sentiers de Charente. Quelles sont les activités que vous proposez en ce moment? Et mettez-nous l'eau à la bouche, quels sont vos projets à venir?
Alors, tous les mois, je propose des cours en pleine nature de 2 heures, qui sont, si on le peut, clôturés par une petite dégustation de plantes sauvages. Je propose aussi des ateliers plus longs, de 3 heures ou 4 heures, autour de la salade, autour aussi des cosmétiques, en proposant des huiles solarisées ou des vinaigres médicinaux à base de plantes sauvages. Je propose aussi, dès septembre, je suis ravie, une conférence une fois par mois au Rebelle Ordinaire autour des plantes. En septembre, autour des saveurs, par exemple. Je vais proposer aussi, une fois par mois, une petite interview autour des plantes sauvages chez RCF.
Voilà, on s'en réjouit.
Voilà, on est tous contents. Et en tant que projet personnel, j'intègre la faculté de pharmacie de Lille à partir de cette année pour un DU, diplôme universitaire en ethnobotanique, car l'histoire des plantes et leurs vertus ancestrales m'intéressent énormément. Par ailleurs, je vais aussi refaire un cursus de 6 mois avec l'école de plantes médicinales de Lyon. J'ai pu faire l'école de plantes médicinales de Montpellier, là je vais faire Lyon. Et j'ai pour projet, un gros projet, de mettre en place un jardin de plantes selon le capitulaire de Villis, jardin qui devrait être près de Carottes et Coccinelles à Villeneuve-les-Salines. On va sûrement commencer à déblayer tout ça fin septembre, début octobre, pour que celui-ci soit resplendissant de plantes sauvages, mais qui seront plus sauvages du coup, dès le printemps 2019.
Bon, ben, on va essayer de vous suivre, ça va pas être facile. Merci. Parce que vous savez que les jours n'ont que 24 heures et les semaines que 7 jours. Alors comment participer à vos balades? Eh bien, vous allez sur le site d'Amandine, le site sentierbotanique.fr, ou sur sa page Facebook, le Sentier Botanique. Vous passerez un très bon moment et vous aurez toutes les informations. Amandine, j'aimerais bien terminer notre rencontre pour mieux vous connaître sur un clin d'œil complice. Je vais oser 3 questions fondamentales. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre histoire?
Je ne changerais rien du tout. Sinon, je ne serais pas avec vous aujourd'hui, Béatrice, et je ne serais pas allée vers les plantes comestibles et médicinales.
Quelle vérité! Et dans l'avenir, avec cette même baguette magique, quel rêve choisiriez-vous de vivre?
Je rêverai d'un jardin thérapeutique, le jardin thérapeutique du sentier, pour mettre en place des programmes d'hortithérapie.
Yes. Ah,
qu'est-ce que c'est l'hortithérapie? L'hortithérapie, c'est du soin, on va dire, par les plantes. Souvent, l'hortithérapie est mise en place au sein de centres hospitaliers ou de cliniques. Les malades peuvent aller dans le jardin, se baigner dans la nature, tailler les plantes ou juste les regarder. Et ça les soigne, si on peut dire, bien mieux que des médicaments, car ils sont tellement contents et ravis d'être au milieu des plantes qu'ils en sortent boostés d'énergie de vie, disons.
Voilà, une médecine un peu globale. La question, Amandine, que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous aimeriez répondre?
A-t-on le droit d'être utopiste? Oui, pour moi, on a le droit d'être utopiste, car notre sentier dépend de nos rêves et c'est lui qui a un effet certain sur le monde.
Oui, et on peut. Je me souviens ce que le yoga nous enseigne, hein, l'énergie va où l'attention va.
Oui, c'est ce que l'on peut nommer, me semble-t-il, l'effet papillon.
Si vous pouviez être quelqu'un ou quelque chose, dernière question, avec la passion, qui seriez-vous, Amandine?
Je serais une rose trémière ou un champ de roses, car je pense régulièrement, même pratiquement tous les jours, à mes deux grand-mères, Rose et Rosa, et mon arrière-grand-mère qui s'appelait Rosalie.
Quel beau programme, incontournable. Alors, une rose trémière en plus grande, souple et joyeuse, comme vous, Amandine. Il est temps malheureusement de nous quitter. Amandine Mouret, merci de nous avoir parlé de vos passions. Au revoir.
Au revoir, Béatrice.
Chers auditeurs, au revoir. À bientôt pour d'autres passions. D'ici là, je vous souhaite mille envies, que battent nos cœurs et que vivent nos passions.